Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Aujourd'hui, pour moi, le multipartisme en Afrique est toujours la source des divisions. Bon, je vous ai dit que pendant 22 ans, avec un parti unique, bon, il n'y a jamais eu cette rabuse. Bon, maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement du multipartisme, bon, c'est comme ça commence. L'essentiel est que chacun se ressaisisse et comprenne qu'on ne fait pas la politique avec la rue comme arme.
Contrairement à nombre de ses homologues, il a réussi en cette fin d'année 1991 à survivre au mouvement de la rue, au vent de démocratie qui souffle partout sur le continent, qui a fortement remué le Gabon. Comme le roseau de la fable de La Fontaine, il a plié mais n'a pas rompu. Il s'est plié à la conférence nationale souveraine, au multipartisme, au partage du pouvoir. Et finalement, il a été sauvé par Paris, qui, comme en 1964, pour remettre Lyamba, son prédécesseur, au pouvoir, a fait intervenir l'armée. Le calme est revenu à Libreville depuis le mois de juin 91 et il a même remporté, d'une courte tête c'est vrai, les premières élections législatives pluralistes depuis 24 ans qu'il a pris les rênes du Gabon. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au président Omar Bongo Ondimba.
Bonjour, ouverture donc en fin d'après-midi aujourd'hui à Libreville du sommet franco-africain. Pour être précis, c'est ce qu'on appelle la 17e conférence des chefs d'État de France et d'Afrique.
Eh bien, c'est la rançon du multipartisme. Pour la première fois, Philippe, un sommet franco-africain fait l'objet d'un débat public dans le pays d'accueil. Du côté du pouvoir gabonais, d'abord, on attend beaucoup de ce sommet et pourquoi pas une aide financière de la France qui donnerait un peu d'oxygène au président Omar Bongo.
Omar Bongo, en cette circonstance, marque son grand retour sur la scène internationale. Du 5 au 7 octobre 1992, Libreville accueille la 17e conférence des chefs d'État de France et d'Afrique. Pour la première fois, le président français est absent. Mitterrand n'est pas là. Il est remplacé par son premier ministre, Pierre Bérégovoy, ce qui ne fait pas vraiment plaisir au président Bongo. La photo de famille a, elle, bien changé. Même si le président Félix Houphouët-Boigny est là, ce sera son dernier sommet. Beaucoup ont été balayés par le vent des démocraties qui souffle un peu partout sur le continent. Moussa Traoré au Mali, Hissène Habré au Tchad, Samuel Ndo au Libéria, Mathieu Kérékou au Bénin, Pinto da Costa à Sao Tomé et Principe, Aristide Pereira au Cap-Vert, Mohamed Siad Barré en Somalie, Mengistu Haïlé Mariam en Éthiopie et Denis Sassou Nguesso au Congo. Le président Omar Bongo, même s'il se réjouit de l'annonce faite à cette rencontre de la création d'un fonds de conversion de la dette, destiné à soutenir les projets de développement des pays dits à revenus intermédiaires, dénonce le manque de moyens, l'absence de soutien au développement économique qui doit obligatoirement accompagner la démocratisation. Il existe une interdépendance entre le développement économique et le processus de démocratisation. Il faut en tenir compte. La rumeur sur la dévaluation court au moment pourtant où chacun des participants réaffirme son attachement à la zone franc. Et pourtant, très rapidement, cette rumeur va devenir réalité.
Donc, officiel depuis hier soir, les pays africains de la zone franc réunis à Dakar ont annoncé une dévaluation du franc CFA. Il faudra désormais 100 francs CFA pour acheter un franc français, dévaluation qui est donc de l'ordre de 50%, sauf pour le franc comorien où elle se limite à 25%. La France parle d'une mesure qui va permettre de consolider les efforts de redressement et pourtant, ce mercredi, dans la plupart des capitales concernées, on notait une grande inquiétude. Beaucoup redoutent une explosion sociale et d'ailleurs, les prix ont flambé en quelques heures. Faisons avec vous, Chantal Leroux, le tour des différentes réactions enregistrées aujourd'hui.
À commencer par le Niger, où les produits pharmaceutiques ont augmenté de 100% en une journée. Ainsi, une boîte de lait pour bébé est passée de 900 à 1800 francs CFA. En Côte d'Ivoire, les supermarchés d'Abidjan, par exemple, ont été littéralement pris d'assaut ce matin. Les rayons de produits importés, comme le riz, le sucre, la farine, ont été dévalisés en un clin d'œil, tandis que les commerçants se hâtaient de changer les étiquettes. Ainsi, le litre de lait est passé de 360 à 560 francs CFA. L'essence substance, elle, n'a pas encore augmenté, mais là encore, les gens stockent et font le plein. Le secteur informel, lui aussi, commence à répercuter la dévaluation. Le paquet de Marlboro vendu à la sauvette coûte désormais 475 francs CFA au lieu de 400. Pour l'instant, les prix de la production locale, viande et légumes, n'ont pas bougé. Le chef de l'opposition ivoirienne, Laurent Gbagbo, a souhaité que le gouvernement prenne des dispositions pour contrôler la hausse des prix, sous peine de s'exposer à une explosion sociale. À noter que la radio nationale sénégalaise s'est livrée à 13h un véritable réquisitoire contre la France, accusant Paris d'avoir lâché l'Afrique. Partout en tout cas, de Brazzaville à Yaoundé, en passant par Lomé, c'est l'inquiétude qui prévaut. Les responsables syndicaux prédisent une explosion sociale. Au Niger, la centrale syndicale, l'USTN, demande d'ores et déjà au gouvernement une augmentation de 50% des salaires. Au Sénégal, le gouvernement a pris les devants en annonçant une hausse des salaires de 10% dans 3 mois pour compenser les effets négatifs de la dévaluation.
Cette nouvelle de la dévaluation est un véritable coup de tonnerre pour les pays francophones d'Afrique, qui la voient cette fois-ci comme un coup de poignard de Paris, comme le mentionnait à l'instant Chantal Leroux. Le président Omar Bongo et son homologue camerounais Paul Biya s'étaient pourtant déplacés discrètement à Dakar pour participer à une réunion informelle de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA, présidée par le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Ils avaient tous ensemble créé un front uni contre la dévaluation. Et en dehors de Paul Biya, qui était rentré précipitamment à Yaoundé au chevet de son épouse Jeanne Irène Mourante, les autres chefs d'État avaient pris la direction de Paris pour aller plaider contre, pour empêcher cette dévaluation. Le président burkinabé avait même été formel. Il n'y aura pas de dévaluation. Et pourtant, Omar Bongo est furieux. François Mitterrand lui avait pourtant promis qu'elle ne pourrait se faire qu'avec l'accord des chefs d'État concernés.
Lorsqu'on nous dit que maintenant la France pourrait être un pays membre de la zone franc, il faut que ces pays soient en règle avec FMI et la Banque mondiale. Or, qu'attendent la Banque mondiale et FMI ? C'est la dévaluation. Et je ne dévoile pas un secret, nos ministres, il y a une insulte même qui a été faite à nos ministres. Nos ministres se trouvent en ce moment-ci à Washington et ils étaient tous ensemble pour une séance de travail. Un monsieur, vice-président, il paraît, de la Banque mondiale, vient et trouve nos ministres, il dit « qu'est-ce que vous faites là ?» Ce qu'on attend de vous, c'est la dévaluation et pas autre chose. Ciao. Alors, cela suppose que tout le discours qu'on nous a tenu était une prélude à cela. On ne veut pas nous le dire peut-être directement, mais on nous le dit indirectement. Mettez-vous d'accord avec FMI, avec Banque mondiale. Banque mondiale et FMI vont nous dire il faut dévaluer si vous voulez qu'on fasse de nouveaux accords. Alors, pourquoi tout cela ? Et la France, avec laquelle nous avons un accord qui date de 1948 sur le CFA, n'a qu'à nous le dire, parce que le CFA est garanti par le Trésor français. On n'a qu'à nous dire, bon, voilà ce que nous voulons, mais on n'a pas à nous tenir des discours fallacieux ou des discours qui cachent la vérité. La France ne veut pas le dire, mais il préfère que c'est la Banque mondiale et le FMI qui nous le disent. Tant mieux.
Le CFA est dévalué. Les pays concernés accusent le coup, mais ne quittent pas la zone pour autant. Plus de 20 ans après, ils y sont toujours vivants au rythme des rumeurs d'une prochaine autre dévaluation. Mais ceci est une autre histoire. Saint-Février 1992, la ville de Libreville est à nouveau en ébullition. Le père Mbabe Sol, leader de l'opposition, lance un appel à la grève générale. Et il est largement suivi. Ce ne sont plus des revendications économiques, mais clairement politiques. Il s'agit purement, cette fois-ci, d'obtenir le départ du président Bongo. Pour nous, il est mystiquement mort, annonce le père Mbabe Sol avant d'ajouter qu'il n'y a plus rien à attendre de lui, ni maintenant, ni dans l'avenir. Monsieur Bongo n'est plus digne de solliciter les suffrages des Gabonais. Il s'est rendu coupable de trop de méfaits, au point que si le Gabon était un pays de droit, il serait en prison aujourd'hui. Fin des citations. La situation politique est donc à nouveau tendue lorsqu'on aborde cette année électorale de 1993. Permba Abbé Sol.
Au mois de août, j'ai logé dans une chambre de bonne. Et puis, à Paris, oui, à la rue de la Clé. 37. Et je reçois un coup de téléphone, tout ça. Et puis je dis, allô? Et puis, j'entends, allô ? Je dis, à qui ai-je l'honneur ? Le président Bongo. Oh, monsieur le président, excusez-moi, je n'ai pas reconnu votre voix. Voici ce que me dit Bongo exactement. Depuis que tu es parti, il n'y a plus personne qui parle de ce qu'on a dit. Alors, on abandonne ou on continue ? Alors, je lui réponds, monsieur le président, moi, je ne suis pas un homme politique. Vous m'avez dit que vous acceptez le multipartisme. Maintenant, vous faites avec ceux qui sont là-bas. Moi, je n'ai plus rien à faire. Moi, j'ai pris mon travail. Je vais reprendre mon travail de prêtre. Il a marqué un temps de silence. Et puis, il m'a dit, Paul, tu as été ordonné prêtre pour le Gabon aussi, je crois. J'ai dit oui. Il dit, si tu as été prêtre, tu as été ordonné prêtre pour l'Afrique, pour le Gabon, tu dois savoir que tu ne peux pas nous laisser dans cette histoire comme cela. Je lui ai dit, monsieur le président, si vous voulez que je remette pied au Gabon, je veux un texte de votre part. 3 jours après, le texte est arrivé, le voici. Et c'est comme ça que je repars. Que dit le texte ? Je vous demande de prendre part avec monsieur Ponbaba Solo et de lui dire qu'il est attendu à Libreville pour prendre part au groupe de travail dont le principe de création avait été arrêté lors de son dernier séjour à Libreville. Stop et fin de citation. C'est comme ça que je suis revenu jusqu'à aujourd'hui.
1993, le Gabon, même s'il accueille d'autres grandes rencontres internationales, notamment le second sommet afro-américain, vit au rythme de la première campagne présidentielle pluraliste de l'ère Bongo, qui doit se tenir à la fin de l'année. Le 5 décembre plus précisément, beaucoup d'autres candidats sont en course. Casimir Ouyeba, le premier ministre gabonais d'alors.
En 1993, Mbabo Sol était au zénith de sa popularité, incontestablement. Mais en même temps, les gens avaient en mémoire une décision surprenante qu'il avait prise aux élections législatives de 1990, quand il avait décidé de boycotter les élections alors que le vote se passait, n'est-ce pas ? Sa décision a été annoncée, moi je l'ai appris ce jour-là, les élections se passent un dimanche, moi je l'ai appris ce jour-là vers les 17h. Que Mbabo Sol a décidé de boycotter les élections, de ne pas continuer. Alors que si les élections avaient continué, normalement, avec sa participation, je suis sûr que le PDG n'aurait pas pu avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Bon, donc les gens avaient ça à l'esprit.
Omar Bongo, de son côté, lui donne l'impression de ne pas s'en inquiéter. Mais il va, comme d'habitude, se rapprocher de l'adversaire, ouvrir la négociation avec le plus redoutable du moment, le père Mbabo Sol, qu'il reçoit en tête à tête.
Bon, mon premier objectif, ce n'était pas pour éliminer Bongo. Je disais qu'il avait une expérience. Il fallait d'abord qu'on arrive à une stabilité dans le pays. Ce que j'ai dit, monsieur le président, on ne peut pas prétendre être stable dans un pays à partir du temps que toutes les opinions ne s'expriment pas encore. Il faut qu'on y arrive. Et pour y arriver plus facilement, nous avons à opter pour le multipartisme dans les conditions que je n'avais pas souhaitées. Moi, j'avais prévu ça autrement. Je dis, nous avons le multipartisme maintenant. Il faut que le pays se stabilise pour qu'on puisse faire des élections présidentielles et autres dans la transparence. C'était ça toujours ma chanson.
Une chanson qui n'ébranle pas le vieux Omar Bongo, qui donne l'impression de survoler cette question, ce débat sur son départ. Il ne déclarera sa candidature qu'en octobre 1993, moins de 2 mois avant le scrutin tant attendu.
Mes chers compatriotes, c'est parce que j'ai foi en chacun de vous, c'est parce que j'ai foi à vos capacités, c'est parce que je crois au génie collectif du peuple gabonais et à nos forces que, fort de mon expérience, je me porte candidat à la prochaine élection. Je vous invite donc à m'apporter vos suffrages sur la base du nouvel élan que je souhaite donner avec chacun de vous à notre pays. Un élan de paix. Elle est là portée par l'unité nationale.
Omar Bongo est donc candidat à sa propre succession dans cette élection où il doit affronter 13 autres candidats. Une opposition qu'il s'emploie naturellement à diviser un peu plus, avec des ralliements spectaculaires, des changements d'alliances monnayées, afin de fragiliser l'autre camp qui essaie tant bien que mal d'y aller en rang serré. Le Morena a été transformé en Rassemblement National des Bûcherons, le RNB. Il essaie de structurer une plateforme avec d'autres partis se réclamant du code, la coordination de l'opposition démocratique.
Au Gabon, une certaine confusion régnait ce matin, au lendemain de la première élection présidentielle pluraliste. Les communications téléphoniques avec le reste du monde ont été coupées pendant toute la nuit, officiellement à cause d'un orage. La Commission nationale électorale n'a pas repris ses travaux ce matin comme prévu, puisqu'elle souhaite ne travailler que sur les originaux des procès-verbaux des opérations de vote. Ceux qui viennent de province n'ont pas encore été ramenés à Libreville et ceux de la capitale étaient bloqués ce matin à l'intérieur du gouvernorat, un bâtiment encerclé pacifiquement par les manifestants de l'opposition. Les premières tendances non officielles semblent indiquer un coup d'à-coude entre le président sortant, Omar Bongo, et le candidat des bûcherons, Paul Mba Abessol. Ce matin, chacun des deux camps revendiquait la victoire.
Dans cette confusion, Omar Bongo est déclaré vainqueur dès le premier tour, avec un important écart, 51,18%, contre seulement 26,48 pour son adversaire, Père Paul Mba Abessol. Ce que conteste naturellement avec force le perdant. Une victoire d'Omar Bongo qui a du mal à passer. Surtout que dans les ambassades étrangères à Libreville, circule un encombrant témoignage. Celui de Pauline Ningone, gouverneur de la province de l'Estuaire, qui englobe la capitale gabonaise. Au-delà des dysfonctionnements et des exemples tels que le matériel électoral conservé dans les locaux de la garde présidentielle et de la désignation des membres de la centralisation des résultats directement par le ministre de l'Intérieur, presque toujours de la province du Haut-Ogooué, fief ethnique du président, il mentionne qu'au moment où l'on proclamait ses résultats définitifs, la commission de la province de l'Estuaire était encore en train d'examiner les procès-verbaux du vote du 4e et ceux du 5e arrondissement qui se trouvaient enfermés dans les urnes dont les clés étaient détenues par l'opposition. Des éléments qui montrent bien que les chiffres ont été manipulés. Casimir Ouyemba était le directeur de campagne d'Omar Bongo.
En 93, Mba Bongo était au zénith de sa popularité, incontestablement. Et puis, je me risque aussi en mesurant le caractère extrêmement sensible de ce que je vais dire. Mais je le dis parce que c'est ce que je crois. Je pense que le TSF, le réflexe TSF, tout sauf les femmes, a dû quand même à un moment donné jouer. Je crois que beaucoup de gens, des non-femmes, se sont dit « Ah non, quand même, nous ne pouvons pas franchir le Rubicon. »
Père Paul Mba Abessol.
Non, pour moi c'était manifeste. Même puisque j'ai vu, j'ai rencontré même celui qui a organisé les élections d'alors, qui m'a dit lui-même que j'avais gagné. Donc, tout le monde a compris que c'était un coup d'état électoral, c'est tout. La discussion n'est même plus là-dessus jusqu'à aujourd'hui. On a su que c'est le Mba Abessol qui avait gagné en 93.
Moi, j'étais de ceux qui souhaitaient qu'on aille à un deuxième tour.
Casimir Ouyemba, le directeur de campagne d'Omar Bongo et premier ministre du Gabon à cette période.
Je pense que le fait d'avoir proclamé ces élections à l'issue du premier tour a contribué à décrédibiliser un peu le résultat aux yeux de l'opinion gabonaise. Je pense que ça aurait été mieux d'aller au deuxième tour et je suis sûr, mais alors sûr, que le président serait passé alors là tout à fait normalement, sans discussion, voilà. Et on n'aurait peut-être pas assisté à tous les soubresauts que nous avons connus après.
Des soubresauts, il va y en avoir. Le Gabon est à nouveau le théâtre de violence, manifestation post-électorale ce coup-ci. Alors qu'Omar Bongo est réinvesti et reconduit Casimir Ouyemba au poste de Premier ministre, le père Paul Mba Abessol se proclame président de la République de son côté. Il nomme Pierre-André Kombila Premier ministre de son gouvernement à lui. C'est le bras de fer. Le Gabon a désormais deux gouvernements. C'est aussi le chaos qui s'installe dans le pays. 3 ans après avoir survécu à la bourrasque démocratique, le président Omar Bongo doit faire face à une nouvelle révolte dans son pays. Comment va-t-il s'en tirer cette fois-ci? Surtout que Paris a décidé, pour une fois, de ne pas s'en mêler et que le père Paul Mba Abessol est décidé à ne pas se laisser voler sa victoire. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal pour en parler dans cette série d'archives d'Afrique. Dans une dizaine de minutes exactement. Les mois qui vont suivre promettent d'être mouvementés avec de grands bouleversements et de nouveaux acteurs. La suite d'Archives d'Afrique après le journal. À très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La perte du président Oufou Boigné, pour nous, chef d'État africain, une très grande perte parce que c'était pour nous les archives de toute la colonisation et à l'indépendance. Donc, la perte d'Oufou était quelque chose d'irremplaçable.
Après plus de 26 ans au pouvoir, le président Omar Bongo, qui a survécu au changement, au bouleversement, à la bourrasque démocratique de 1990, est confronté pour la première fois à un adversaire populaire dans la première élection pluraliste au Gabon depuis 1967, le père Paul Mba Abessol. Une élection à haut risque dont il est dans le même temps l'organisateur. Il n'eût été le lien affectif fort qu'il entretenait avec le président Félix Houphouët-Boigny, qui vient de disparaître, il n'aurait pas effectué le déplacement de Yamoussoukro, parce qu'au pays, au Gabon, la tension est à son comble. La rue gronde à nouveau. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Omar Bongo Ondimba.
Au Gabon, une certaine confusion régnait ce matin, au lendemain de la première élection présidentielle pluraliste. Les communications téléphoniques avec le reste du monde ont été coupées pendant toute la nuit.
Après un scrutin entaché de graves irrégularités, la commission électorale a déclaré Omar Bongo ce lundi 13 décembre 1993 vainqueur de la présidentielle. 51,28% pour le président sortant, contre seulement 26,48% pour Paul Mba Abessol. Un résultat qui, évidemment, est contesté par l'opposition, mais également par la rue. On entre dans une période trouble où le père Paul Mba Abessol s'est autoproclamé président et a nommé son gouvernement, et où, de l'autre, Omar Bongo est investi par la machine étatique qu'il contrôle président de la République pour un nouveau mandat. Face au trouble qui s'amplifie, le président siffle, comme il le dit, la fin de la récréation. Son ministre de la Défense est en première ligne.
Je demande à tous nos compatriotes d'accepter le verdict des urnes et de ne pas causer de désordre.
Il ne suffit pas de siffler la fin de la récréation pour qu'elle soit terminée, non. Les troubles ne font que commencer. On entre dans une période de confrontation larvée où les grèves succèdent aux répressions. Le père Paul Mba Abessol est l'une des principales cibles. Son domicile et Radio Liberté, son antenne, vont être carrément saccagés. Il fait très chaud pour l'opposition à Libreville. Surtout que Paris a déjà envoyé ses lettres de félicitations au président Omar Bongo. Pas question d'ingérence dans cette crise post-électorale. En mars 1994, le père Mba Abessol refuse le poste de ministre que lui propose Omar Bongo Ondimba. Pas question de rentrer dans le gouvernement.
Non et non. Monsieur Bongo tend une main, mais il n'a pas de main. Monsieur Bongo est à la tête de l'État par la force. Le gouvernement qui va être formé, nous n'en attendons rien. On mobilise les gens pour leur expliquer ce que c'est qu'une démocratie. On leur explique le respect des droits de l'homme. On ne s'occupe plus de ce que Monsieur Bongo et sa bande armée font avec leur gouvernement. Nous avons mis une croix dessus. Ça, pour nous, ça n'existe plus. Nous travaillerons à nos risques et périls.
Le bras de fer va se poursuivre jusqu'à la signature des accords de Paris en octobre 1994. Il est décidé, au moins pour un moment, de mettre un terme à ces violences et de se parler autrement que par invective. On veut en finir avec cette situation de deux présidents. Même si Père Paul Mba Abessol, en réalité, était déjà dans une situation peu confortable et n'exerçait aucun pouvoir. Paul Mba Abessol.
On est arrivé à ceci. Je dis, monsieur le président, il n'est pas bon que deux notables dans un village, chacun à son bout. Quand les gens arrivent d'un bout, ils entendent le notable, là, de ce bout-là, insulter l'autre notable et vice-versa. Nous sommes dans cette situation. Alors, si nous voulons que notre pays soit respecté, nous devons sortir de là. Mais chacun a ses opinions. On n'est pas obligé de s'insulter. On n'est même pas obligé de dire ce que l'autre fait n'est pas bon. Il suffit de dire, moi, je voudrais faire ça. Elle dit, bon, d'accord, on va essayer de fonctionner comme ça.
Ces accords marquent un tournant important dans l'histoire du régime Bongo. Son principal adversaire a certes été vaincu, il adopte une posture moins belliqueuse, mais il est à surveiller. Surtout qu'en 1996, le père Paul Mba Abessol va conquérir la mairie de Libreville, après des élections municipales particulièrement disputées et tendues.
La mairie, je suis élu maire une fois, annuler. Deux fois, on voulait annuler. J'ai dit, M. Chirac, qui était président de la République française à l'époque, est intervenu lui-même personnellement pour dire au président Bongo. Ça, je ne le tiens pas de Chirac, mais je le tiens de Bongo lui-même. Il dit, voilà, mon ami Chirac est intervenu pour me dire, laisse Mbabe Sall à gagner, il faut le laisser travailler. Et c'est comme ça que j'étais laissé gagner. Voilà. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, monsieur le président, que nous soyons clairs. Vous pouvez faire en sorte que j'échoue totalement. Vous en avez les moyens, vous êtes président de la République pour prouver aux yeux du monde entier que Mbabe Sall est incapable. Vous avez la possibilité de le faire, je vous le reconnais. Mais sachez que si vous faites ça, je suis maire de la capitale du pays que vous dirigez. Et cette capitale va être dans un état tel que c'est vous qui allez avoir honte. Parce qu'on dira, mais monsieur le président, mais ça va mal. Vous n'allez pas dire, mais ça va mal parce qu'en bas, vous serez maire de Libreville, vous, président de la République, mais personne ne vous croira.
Une fois les conflits post-électoraux réglés, avez-vous reparlé de ce scrutin de 1993 avec le président Omar Bongo?
Oui.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Nous étions trois avec quelqu'un d'autre. Il a dit, vous avez gagné. Oui. Et Bongo lui-même a dit, Paul, tu as gagné, mais tu n'es pas encore prêt pour diriger le Gabon. Tu dois attendre.
Comme ça?
Oui.
Morts au Rwanda, c'est le chiffre qu'avance aujourd'hui le ministre allemand des Affaires étrangères. 500 000 morts, ça représente 7% de la population du pays. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, a d'ailleurs répété aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il s'agissait d'un véritable génocide. Et pour y mettre fin, il suggère l'organisation d'un sommet régional.
Face à l'offensive du Front patriotique rwandais, les troupes gouvernementales rwandaises se sont livrées à une élimination systématique de la population Tutsi, ce qui ensuite a provoqué bien entendu la généralisation des massacres. La France a dénoncé avec la plus grande énergie cette situation. Nous soutenons les efforts des États de la région, la Tanzanie, le Zaïre, l'Ouganda, pour obtenir un cessez-le-feu. Et nous préconisons un sommet des chefs d'État de la région pour qu'ils puissent peser de tout leur poids sur les belligérants, FPR d'un côté, forces rwandaises de l'autre, afin de faire cesser les hostilités et de renouer avec le processus d'Arusha qui, permettez-moi de le signaler, en 1993, avait été mis en place grâce à l'action de la France, ce qui avait permis la cessation des hostilités à l'époque, avant l'attentat qui a été commis contre l'avion transportant les présidents rwandais et burundais.
En ce mois d'avril 1994, le monde entier découvre l'horreur, la barbarie. Dans un état d'Afrique des Grands Lacs, on se massacre, on tue à la machette, à l'arme blanche. Les morts se comptent, comme on vient de l'entendre, par centaines de milliers. C'est le début de ce que l'on va aussitôt appeler le génocide rwandais. Les Nations Unies et les puissances occidentales se montrent incapables de mettre fin à cette boucherie. Les pays africains eux aussi semblent dépassés. Devant l'ampleur du drame et le chaos ambiant, Omar Bongo, comme quelques-uns de ses homologues, propose sa solution à lui.
Le Rwanda, j'ai un point de vue peut-être particulier, mais que je vais soumettre aux autres chefs d'État lorsque nous serons à Tunis pour le sommet de l'OIA. Je crois qu'il faut faire en sorte que peut-être le Rwanda soit sous la protection de l'ONU. D'une part, et d'autre part, il va falloir qu'on ramasse tous les enfants de 0 minutes jusqu'à 20 ans pour les envoyer loin du Rwanda, comme nous avons fait lorsqu'il y a eu des événements semblables au Nigeria. Et puis, lorsque ces enfants-là auront été soignés, lorsque la calmie reviendra dans le pays, eh bien, on les remettra à leur famille.
Si le président Omar Bongo, dans cette première moitié de la décennie 90, est particulièrement occupé et secoué à l'intérieur de son pays, si son régime est contesté par un bon nombre de ses compatriotes, sur le plan international, il reste une voix qui compte, avec de solides amitiés tissées ça et là. Avec le roi Hassan II, par exemple, du Maroc, les relations sont fortes. Laure Olgan-Gonjou, très proche collaboratrice du président Omar Bongo, dont elle fut même pendant un certain temps la ministre des Affaires étrangères.
Concernant la relation entre Sa Majesté Hassan II et le président Omar Bongo Ondimba, je peux dire que c'était des frères, c'était des complices. Toutes les fois que nous avons accompagné le président de la République en séjour au Maroc, nous nous sommes sentis véritablement chez nous.
Une amitié qui sera même scellée dans la pure tradition bantoue par un enfant, une fille. Mais il continue ses médiations et c'est dans ce cadre qu'il propose pour le Rwanda une force d'interposition africaine.
Et lorsque vous mettez au monde un enfant, on lui donne bien un nom. Son nom, c'est la force d'intervention, force africaine d'intervention. Mais il faudrait qu'on lui apprenne à marcher, qu'on fasse tout, qu'on lui fasse son costume sur mesure et qu'il soit à mesure de dire ce qu'il pense.
D'une manière personnelle, connaissant celui qui a été élu président de la République, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction et ma joie en voyant un ami, un frère, élu président de la République et profiter de l'occasion pour lui adresser toutes mes sincères et vives félicitations.
Il n'y a pas que sur les bords de la Seine que l'on savoure cette victoire de Jacques Chirac. À Libreville aussi, du moins au palais du bord de mer, on se réjouit de cette élection qui marque à la fois le retour de la droite gaulliste aux affaires, mais également l'arrivée d'un ami personnel, un protégé. Pour Omar Bongo, la relation avec Paris va être meilleure que sous François Mitterrand.
Chirac me connaît mieux qu'un autre homme politique français. Il a dit, mais j'ai toujours dit que je faisais du l'âne, de Saint-Thomas. Bon, alors il a dit cela. Je fais le Saint-Thomas, je veux le voir d'abord s'installer, former un gouvernement, et puis après, voir ce qu'il va faire. Si ce qu'il fera répond exactement à ce qu'il avait dit, eh bien, je dirais bravo. Si ce n'est pas cela, j'aurai tout loisir à lui dire, Jacques, tu as manqué à ton serment.
Même si Omar Bongo continue d'être attaqué de toutes parts par la presse internationale qui parle de corruption, d'enrichissement personnel, de pouvoir familial, il sort renforcé de cette première partie de la décennie 90. Casimir Oyemba, ancien premier ministre de Gabon et ancien ministre des Affaires étrangères et même ministre du pétrole d'Omar Bongo.
Le président Omar Bongo, c'est quelqu'un d'avant. Donc, il a évolué. Il a grandi, entre guillemets, politiquement, dans un contexte dans lequel la France était, pour nos pays, la référence avec un grand R majuscule, n'est-ce pas ? C'est dans cet esprit qu'il a été formé politiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne souhaitait pas, en même temps, marquer aussi son indépendance, l'indépendance de son pays, etc., l'affirmer sur la scène internationale, ce qu'il a fait par ailleurs.
Surtout qu'à Paris, les événements, les enquêtes sur Elf l'ont conforté, l'ont rendu plus puissant auprès des hommes politiques. Ils sont désormais fragiles vis-à-vis de lui. Fini le diktat de Paris à travers la compagnie pétrolière Elf Gabon, déjà affaiblie par ce qui va devenir en 1994 l'affaire Elf. La compagnie fait l'objet d'une enquête judiciaire très médiatique qui montre des pratiques peu orthodoxes dans la gestion de l'entreprise depuis sa création. Des pratiques dont nous avons parlé ici. Le financement des campagnes électorales et de nombreux montages politiques et enrichissements personnels. Des détournements de fonds en tout genre. Des commissions et rétro-commissions. Bien sûr, le nom de Bongo est cité dans l'enquête. En réalité, c'est le système mis en place depuis le général de Gaulle et entretenu par les régimes successifs à l'Élysée qui fait surface. Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, et il occupera aussi la fonction du ministre du pétrole. On a souvent parlé du caractère léonin des contrats pétroliers avec Elf. Qu'en était-il ?
Je ne peux ni affirmer que les contrats pétroliers, notamment avec Elf Gabon, enfin Total Gabon maintenant, je ne peux pas affirmer qu'ils étaient parfaitement équilibrés, mais je ne peux pas non plus affirmer qu'ils étaient clairement léonins. Je ne peux pas le dire. En revanche, il m'apparaissait assez clairement que la relation entre Total Gabon et le Gabon était particulière. Oui, certainement.
Particulière, c'est vrai. Peut-on dire qu'il y avait une transparence dans la gestion de ces ressources pétrolières ?
Je pense que oui, pour la plus grande partie. Pour la plus grande partie des revenus pétroliers. Pourquoi ? Parce qu'ils découlent des contrats qui ont été signés avec Total Gabon, n'est-ce pas ? Qui prévoient ce que Total doit payer au Gabon. Et Total paye ça au trésor gabonais. Mais je crois pouvoir dire aussi qu'une partie des choses n'était pas traitée dans ce cadre contractuel, dans ce cadre légal.
Cette histoire Elf qui enfle et qui est suivi par un juge bien loin des préoccupations énergétiques de la France qui ont donné naissance à la compagnie française, va dans les mois qui vont suivre mettre le président gabonais sous les feux des projecteurs. Surtout que les acteurs, confrontés à la justice, se mettent à table et le pointent directement du doigt comme l'un des principaux acteurs de cette magouille, de ce scandale politico-financier. Mais Omar Bongo n'est pas homme à se laisser ainsi humilier sans réagir. Il a des armes pour répondre à toutes ces attaques qui viennent de partout. Laurel Gangonjo, sa proche collaboratrice pendant plusieurs décennies.
Il pouvait décapiter la France.
Paris, du reste, le sait. Mais les autorités aux affaires ne contrôlent plus tout. Le président Omar Bongo est également dans une position délicate dans le conflit qui éclate chez son voisin congolais entre le président Lissouba et son beau-père Denis Sassou Nguesso, avec en fond de toile le pétrole et Elf. Il va être sur tous les fronts comme nous le verrons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique la semaine prochaine. Elf qu'il faut démanteler pour étouffer les affaires, les accusations de corruption que publie un important média américain, les affaires des biens mal acquis, la guerre au Congo-Brazzaville, l'opposition intérieure qui se réorganise. Omar Bongo a du pain sur la planche. Rendez-vous le week-end prochain pour cette saga. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de RFI. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Ni chinada, ni suba ya tigani na venemi.